Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Ce soir, nous reviendrons sur la vidéo de ce lycéen qui se prend un coup de poing en plein visage par un policier.
Yeah, it's great! Bonne idée de fracasser les jeunes cocos! Vous êtes sur la bonne voie, le Frenchie. Faites-moi rêver. Vos flics ont buté combien de noirs cette semaine?
Non, mais enfin, aucun.
Voilà. C'est là où vous avez des progrès à faire. Vous êtes encore trop tendre. C'est pour ça que vous n'atteindrez jamais la grandeur de l'Amérique.
Oui, eh bien, écoutez, on reparlera de votre programme tout à l'heure.
Bonsoir, bienvenue. On se retrouve après ça.
Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale production indé US. L'occasion pour nous de rendre hommage à deux producteurs mythiques du bis, soit qu'on peut dire ça, du cinéma de genre US, hein, même s'ils n'ont pas fait que ça. Roger Corman, qui est mort en 2024 à 98 ans. Et oui, la production de films, comment dire, ça rend indestructible. Hein. Et Menahem Golan. Et oui, Menahem Golan, on en avait parlé il y a très très longtemps, dans la deuxième ou troisième saison, on avait fait une spéciale canon. Voilà, là, on est dans la 16e saison, donc il y a du temps qui s'est écoulé et qui est disparu, lui, Menahem Golan, en 2014. À l'âge vénérable de 84 ans quand même. Hein. C'est pas le record de notre ami Roger Corman, mais c'est bien aussi. Alors, Menahem Golan et la Canon aussi, parce qu'on va parler d'un film produit par la Canon avant que Menahem Golan la rachète. Ils sont mis à l'honneur, ils sont honorés de nombreuses sorties. Alors, à savoir Joe, c'est aussi l'Amérique de John J. Albitson, Barfly de Barbet Schroeder, le Ninja Blanc de Sam Firstenberg, tout ça c'est ESC Vidéo, et l'épée du vaillant de Stephen Wicks, ainsi que le fantôme de l'opéra de Dwight Little chez BQHL. L'équipe de Culture Prohibée remercie Isé Régnier et François Villa pour leur aide sur cette émission. Et cette émission ne serait rien sans mes fidèles chroniqueurs. Je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projections Perdues, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les petites consciences indépendantes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique.
Mon cher Thomas, comme tu as la parole, tu vas la garder parce que Thomas, il a été bouleversé pendant l'été 2024. Il m'a inondé de messages. Il m'a dit GG, c'est terrible, Roger Corman est mort. Voilà, parce que je pense que Thomas, bon, moi aussi je suis passionné par ce qu'a fait Roger Corman, mais nourrit une vraie passion pour Roger Corman. Et donc Thomas, tu tenais absolument à ce qu'on rende hommage à Roger Corman qui, c'est vrai, représente à lui tout seul tout un pan de l'histoire du cinéma indé US. Bon, il n'a pas toujours eu un super flair. Par exemple, il n'avait pas voulu produire Easy Rider de Dennis Hopper, mais qui a quand même découvert, ou en tout cas fait travailler plein de super cinéastes, de Joe Dante, à, bon, je vais en oublier, hein, à Peter Bogdanovich, enfin à plein de cinéastes. On ne va pas tous les citer, Francis Ford Coppola et patati et patata. Mais je vais laisser Thomas nous parler de cet homme exceptionnel que fut Roger Corman.
en effet un producteur de films de genre, hein, parce que lui, il n'était pas d'accord avec la notion de série B. Pour lui, les séries B, c'était les films en double programme, hein, avec, qui étaient faits avec plus de budget, qui accompagnaient des films de série A. Donc, pour un producteur de films de genre, avec une telle longévité, c'est vrai qu'il a marqué l'histoire du cinéma par des films qui, certains encore aujourd'hui, sont encore mal vus, mais qui, de moins en moins quand même, hein. Donc, sa filmographie est traversée, cinéma d'action, fantastique, horreur. Donc, Roger Corman, c'est aussi l'homme qui a adapté Poe au cinéma avec Vincent Price, hein, des adaptations plutôt mémorables qui a contribué à faire connaître Poe à un plus large public. Hein, Poe et puis Lovecraft aussi. Il a aussi fait des adaptations de Lovecraft qu'il a produit. Et Roger Corman aussi, c'est aussi la preuve qu'on se souvient de Roger Corman qui fait une petite apparition au début de Hurlement, hein, dans une cabine téléphonique où il met ses doigts dans la fente pour voir s'il n'y a pas de la monnaie qui traîne. Roger Corman, c'est quand même la preuve qu'on peut être de gauche et aimer l'argent.
Oui, non, parce qu'en plus, il a lancé Joe Dante aussi. C'est vrai que ça fait partie de ces gens qu'il a lancé. Oui, effectivement, il était de gauche. D'ailleurs, il l'a prouvé avec un film dont il a toujours un quasi-chef-d'œuvre, un très grand film, hein, dont il a toujours dit qu'il ne lui avait jamais rapporté d'argent, tout ça. Mais ce film incroyable qui est The Intruder.
Oui, The Intruder qui est un film plutôt novateur à l'époque, hein, qui parlait de la ségrégation raciale aux États-Unis, adapté d'un excellent roman de Charles Beaumont. Un intrus qu'on peut trouver traduit en France, une nouvelle traduction, un intrus, il est en poche chez 10-18, je crois. C'est un livre que je vous recommande vivement. Et c'est le livre comme le film. Hein. C'est sur la ségrégation raciale, mais surtout ça parle du populisme. C'est le personnage qu'il met en scène, que Charles Beaumont décrit dans son roman et que Roger Corman met en scène. C'est un populiste et le film est toujours d'une actualité brûlante dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il démontre. Et c'est vrai qu'il dit que c'est le film qui... il a eu des soucis, hein, pour le faire. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Hein. C'est un film qu'il a eu du mal à faire. Quand les gens ont compris qu'il faisait un film contre la ségrégation raciale, ils n'étaient pas contents. Hein. Mais Roger Corman, oui, il a toujours été attiré par les marginaux, les laissés pour compte, comme il le prouve avec des films comme Bloody Mama, hein, qui relate l'histoire vraie d'une célèbre chef de gang qui, avec ses fils, se braquait des banques, etc. Qui était quand même, et c'est un film qui rigole pas beaucoup, hein, c'est quand même assez violent. Où il met en scène des Hells Angels. Enfin, il dit qu'il a toujours aimé les marginaux. Et ça se retrouve aussi, par exemple, dans Le Baron Rouge. Ça, c'est un film que j'aime vraiment pas mal. Hein. Le Baron Rouge, qui est Von Richthofen and Braun, en anglais. Et un film d'aviation sur, entre autres, Le Baron Rouge. Mais en fait, le film, ce n'est pas que sur Le Baron Rouge. Le film, c'est un film de rapports sociaux. Hein. C'est un film de... Parce que Le Baron Rouge, c'est... Il vient d'une classe plutôt aisée. Et l'homme qui est là-bas, en fait... Finalement, c'est un prolo. C'est Brown, un Canadien, qui est plutôt mal vu par son équipe, parce que c'est un prolo, quoi. Donc on le regarde de haut. C'est finalement celui qui a le plus d'idées tactiques, qui réussit à donner la victoire à son camp par rapport à Von Richthofen, qui les écrasait littéralement. Donc, on retrouve tout ça dans son cinéma. Après, il y a les productions, hein, comme La Galaxie de la Terreur ou Les Monstres de la Mer. Là, c'était un petit peu plus... Avec des films un petit peu plus putassiers. Hein, ils se démerdaient toujours. Où il y a des monstres qui déchiraient les chemises de jeunes demoiselles, même dans l'espace. Même dans l'espace, où elles ont des combinaisons de cosmonautes, il y a toujours des monstres qui réussissent à les foutre à poil. Voilà. Et dans Les Monstres de la Mer, par exemple, c'est des monstres qui sont quand même plutôt hétéronormés, qui, plutôt qu'ils voient une femme, ils la violent. Ah, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais ils veulent toujours violer les femmes, mais les hommes, ils n'y ont pas droit. Mais moi, j'aime beaucoup Les Monstres de la Mer, un film de Barbara Peters, parce que Roger Corman aussi, même s'il avait ce petit côté putassier dans certaines de ses productions, où il mettait, ça arrangeait toujours pour mettre des nanas à poil, il essayait quand même de mettre en avant
des femmes, notamment à des postes de réalisation. C'est l'un des premiers à avoir fait ça. Hein.
Culture prohibée.
Les cinéastes qu'il a lancés, par exemple bon, James Cameron, évidemment, qui faisait les effets spéciaux, des effets visuels, mais aussi des cinéastes qui faisaient des films d'autres genres. Je pense à Monty Hellman, par exemple, qui est une sorte d'ersatz américain d'Antonioni, hein, quelque part, avec, notamment avec Macadam à deux voix, hein, un film très antonionien. Hein. Donc il a lancé beaucoup. Le cinéma lui doit énormément, le cinéma américain lui doit énormément. Et là aussi, non seulement il était réalisateur, producteur, mais aussi distributeur. Il a distribué Godard, Fellini aux États-Unis, avec un certain succès d'ailleurs, je pense.
Et d'ailleurs, ça permet de faire la transition, mon cher Thomas, puisqu'il y en a un autre, même qui a produit Godard, qui s'appelle Menahem Golan. Alors avant de parler de Menahem Golan plus en détail, on va surtout de films produits par Menahem Golan. Il faut savoir quand même que Golan et son cousin Yoram Globus, hein, Menahem Golan donc, et son cousin Yoram Globus, ils vont racheter la Canon, mais ils l'achètent, ils l'achètent à la fin des années... des années 70, quoi. Donc, au début des années 80. Donc, ils rachètent la Canon à ce moment-là. Mais la Canon existait avant. C'était une petite boîte de production, tout ça. Alors, et elle a produit. Alors, souvent, c'est résumé dans des petits bréviaires sur l'histoire du cinéma. Une petite boîte qui produisait des nudistes et tout, dont personne n'a entendu parler. Bon. Moi, je ne connais pas assez l'histoire de cette société avant que les deux infernaux, Globus et Golan, s'en emparent. Mais juste avant, quand même, elle a produit quelques trucs intéressants, quelques films intéressants, dont là, un film assez passionnant, que j'aime beaucoup et que je suis content de le voir en plus dans une version intégrale, parce que la version là qui est éditée par ESC, c'est une vraie version intégrale. Il y a plein de scènes en plus que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas présentes sur la VHS dont on disposait, parce que jusqu'ici il était sorti en France uniquement en VHS sous le titre Joe d'ailleurs. Là il sort sous le titre Joe, c'est aussi l'Amérique. C'est un film vraiment singulier, important, réalisé par John J. Alvitson. Alors, ça doit vous dire quelque chose, hein, John J. Alvitson, puisque c'est le réalisateur de...
De Rocky et les Karate Kid.
Voilà, c'est un enfant. En fait, lui aussi, il a fait partie de cette constellation réunie par Peter Biskin sous l'appellation de Nouvelle Hollywood. Quoi. Ce film-là, d'ailleurs, en est un bel exemple. Hein. Joe, c'est aussi l'Amérique.
qui est un film, alors déjà avec un casting extraordinaire, hein, Peter Boyle, donc qui fait Joe, qui est un type un peu bas du casque, qui est une sorte de type un prolo abruti par l'alcool, tout ça, et puis un peu perdu politiquement et tout ça, qui est à droite évidemment, hein, qui est très à droite, qui est très très Nixon d'ailleurs, on le voit dans le film. Il comprend pas la nouvelle génération, tout ça. Et de l'autre côté, il y a Bill Compton, qui est un riche publicitaire, qui est campé par Denise Patrick, qui supporte pas que sa fille, interprétée par une toute jeune Suzanne Sarandon, je crois que c'est son premier rôle d'ailleurs, elle est excellente, hein, dans le film, vive avec un dealer, vive avec une sorte de hippie dealer. Ils se défoncent ensemble, ils sont pas que dealers, ils sont consommateurs et tout ça, enfin bref. Et elle a une overdose, et bon, elle n'en meurt pas, hein. Et puis lui, Bill Compton, le père de cette jeune fille, il se rend chez ce dealer. Il veut récupérer les affaires de sa fille, en fait. Il veut lui dire c'est fini entre vous, tout ça et tout. Et puis bon, il le tue. Bon, je ne vous raconte pas comment il le tue. C'est plus par accident d'ailleurs. Et puis dans un accès de colère, enfin, l'autre le cherche un peu. Et puis il n'a pas besoin de le chercher beaucoup pour le trouver. Enfin bref, voilà. Et puis il va dans un bistrot juste après, comme ça. Et là, il tombe sur Joe et va se nouer entre eux une étrange amitié, une étrange relation qui va aller jusqu'à l'inéluctable. Un film, mon cher Damien, qui est un film qu'on redécouvre aujourd'hui, qui est un film important, hein. Jean-Baptiste Aurel a dans les bonus de cette édition ESC, d'ailleurs, l'éclaire de bien des manières. On se doute bien qu'un film comme ça va passionner Jean-Baptiste Aurel de toute façon. Qui est un film qui a souvent été mal compris aussi, hein, parce qu'on l'a par exemple rangé dans un film qui serait l'un des premiers films de Vigilante, alors que c'est pas, pour moi, c'est pas un film de Vigilante, quoi, voilà. Et le film a souvent été mal compris, et pourtant, quel film passionnant.
Le film est extrêmement passionnant, et tu as mis en avant l'équipe. Je rajouterai en plus le scénariste Norman Wexler, qui est au scénario, qui va être nommé à l'Oscar du meilleur scénario pour ce film, et qui est l'auteur de Serpico de Sidney Lumet et de La fièvre du samedi soir de John Badham. Et en fait, le film commence assez tout doucement en nous présentant ce couple de dealers, et au fur et à mesure, il va y avoir une montée en tension. Mais c'est vraiment la rencontre avec Joe où tout bascule, parce qu'au final, ces deux hommes, ils viennent de deux milieux totalement différents. Et l'acte qu'a commis Bill va indirectement commencer à nouer cette amitié, sauf que Joe, c'est un peu le pote malaisant. C'est celui qui va constamment ouvrir sa gueule, pas forcément pour dire des trucs vraiment intéressants, mais qui a ce côté de constamment finir un peu par « vous êtes d'accord avec moi ?» Et vu qu'il a une grande gueule et qu'il s'impose physiquement, les gens habituellement lui répondent pas, c'est-à-dire qu'il a pas mal de travers. Il est très gueulard, il impose son autorité à sa femme et on ne serait pas surpris qu'il la frappe. Il est raciste, misogyne, il a plein de défauts, mais les deux, ils s'entendent à travers un peu cette violence, parce que Joe reconnaît Bill justement par l'acte qu'il a fait, c'est-à-dire tuer quelqu'un que Joe considère lui comme une victime. Joe, il passe son temps à critiquer les hippies. Pour lui, si le pays va mal, c'est à cause des jeunes. Parce que de toute façon, c'est toujours à faute des jeunes si un pays va mal. C'est un perso qui va créer de la tension et du malaise partout où il va passer, et qui est renforcé par le fait que les gens ne s'opposent pas à lui. Ils se taisent dans un silence assez gênant. Mais l'alchimie qu'il y a entre les deux, elle est vraiment très particulière, parce que Bill, il reconnaît quelque chose en Joe qui est très bizarre. J'arriverai pas à mettre exactement le doigt dessus, mais ce qui est intéressant au final, c'est que c'est la violence qui les unit tous les deux, un peu comme si les États-Unis étaient unis dans la violence, ou en tout cas dans ce rêve de violence. Alors que l'une des rares scènes dans le film où finalement les deux sont parmi les jeunes et finalement suivent un peu leur mouvement, c'est l'un des moments où ils sont le plus libérés entre eux, même si derrière ça amène à la fin qu'on lui connaît, qui est une fin absolument géniale. Presque, on peut presque la deviner à l'avance, mais ça lui retire rien. Le film est vraiment solide, on suit d'un bout à l'autre cette relation très étrange, et je suis vraiment très heureux de l'avoir découvert.
En fait, ils se nourrissent l'un l'autre. Au départ, il y a ce riche publicitaire, il le regarde un peu de haut d'ailleurs, et l'autre lui fait un peu du chantage, plus ou moins, mais finalement ils se nourrissent l'un l'autre, parce que Joe représente sa partie la plus sombre, c'est-à-dire ce que lui n'ose pas exprimer, ce qu'il est. C'est un conservateur, réactionnaire. En fait, Joe, c'est le mec qui exprime ses pulsions, quoi. Et ils se finissent par se nourrir l'un l'autre, parce que l'autre, Joe est fasciné par ce publicitaire, quelque part, qui, lui, a osé faire un geste irréparable, que Joe, lui, n'a jamais passé le pas, en fait. Mais il l'admire pour ça. Il l'admire parce qu'il est riche, il l'admire parce qu'il a fait ça. Il pense qu'il l'a fait exprès, qu'il a vraiment tué le dealer par conviction, par envie, etc. Donc, il l'admire pour ça. Et ils se nourrissent l'un l'autre dans leur façon d'être haineux, d'être quelque part, c'est un peu une image du mal. Et c'est aussi un film contestataire, quelque part. C'est un film de 1970. Donc là où la population américaine commence à être contre la guerre du Vietnam, et il y a ça en creux, quoi. Il y a cette contestation de la guerre du Vietnam dans le film en creux. Parce que ces deux personnages-là, on devine bien que ce sont des va-t-en-guerre qui soutiennent la politique de Nixon, etc., en Asie du Sud-Est. Donc, oui, c'est un film qui critique cette Amérique-là.
Écoutez Culture Prohibée, spéciale production indé US.
Il y a un moment, Joe qui voit un poster qui moque Nixon et chez l'un des hippies, et puis il dit bon, si on peut plus faire confiance au président des États-Unis, alors à qui on peut faire confiance, quoi. Donc effectivement, il y a Jean-Baptiste Auret dans les bonus, lui, il explique en quoi le film s'oppose un peu à la pensée dominante de la contre-culture des années 70, en donnant la parole à cette fameuse majorité silencieuse qui a permis d'élire Richard Nixon. Et en fait, c'est un peu cette majorité silencieuse-là qui a permis d'élire au moins une fois, en tout cas, Donald Trump. Donc on voit que les mots qui traversent ce film sont des mots qui traversent toujours l'Amérique, en fait. C'est aussi un pays violent, donc on voit que c'est un pays violent qui a la fascination, la culture des armes aussi. C'est quelque chose qui est dans le film. Enfin, on ne règle pas ses comptes comme on les règle en France, par exemple. Il y a énormément d'armes qui circulent, il y a plein de chasseurs, mais on règle pas vraiment nos comptes à coups de flingue en France, quoi. C'est pas dans notre culture. Le Canada qui est juste à côté, il y a énormément d'armes qui circulent aussi, mais on règle pas ses comptes à coups de flingue non plus. C'est vraiment typique des États-Unis, de ce pays qui s'est construit aussi sur la violence. C'est assez intéressant ce discours. Et le film a souvent été, je trouve, mal compris aussi, parce que on a souvent... Beaucoup de ses détracteurs ont dit que c'était un film réactionnaire. Moi, je ne le vois pas comme un film réactionnaire du tout. Ces deux types-là, ils ne font pas rêver. Alors, OK, on y retrouve... le film, il est... En fait, je pense qu'il doit gêner certains spectateurs. Il doit gêner leur bonne conscience pour certains, ce qu'on peut appeler une bonne conscience de gauche. C'est-à-dire qu'ils voient que ces types, en fait, ce Joe-là, moi, si je le rencontre dans un bistrot, bon, ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais si on se met à discuter football, par exemple, je suis sûr que je pourrais le trouver sympa. Là, il est bonhomme, il est... Hop, il paye son coup, voilà. Et c'est ça qui gêne les gens, je pense que c'est ce truc. Et puis ce type qui a réussi, là, ce type, c'est l'image des winners de l'Amérique qui réussit, ça préfigure, c'est la fin des idéaux hippies, et puis l'arrivée au pouvoir de Reagan, et puis de tous ces conservateurs là, qui vont imposer le monde libéral tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, et c'est pareil, les Américains vénèrent ce genre de personnages. On le voit avec la fascination pour Trump aujourd'hui, de toute façon. Donc ces self-made men qui se sont faits, qui sont des gens riches, dont la femme est belle, qui ont des situations incroyables, enfin voilà. Et le film, en fait, pour moi, il est plutôt terriblement sombre et nihiliste, en vérité, parce que la fin est glaçante, hein, je crois qu'on peut le dire. Quand on a vu ce film, on n'oublie jamais la fin du film, jamais, jamais. Même si tu la sens venir et tout, tu t'en fous, tu peux pas l'oublier, c'est impossible. Et en fait, ces types-là, ils sont quelque part, ils sont détestables, quoi, parce qu'en vérité... parce qu'on a dit le portrait des... C'est un film réactionnaire parce que le portrait des hippies est détestable. Ils se droguent, ils sont... Mais sauf que en fait, eux, ils sont bien contents à un moment de profiter de ce mode de vie des hippies, d'aller coucher avec des jeunes femmes très jolies, qui effectivement sont très loin
du physique de leur femme et puis des désirs de leur femme surtout, parce que leurs femmes sont pas plus moches que d'autres femmes à ces deux gars-là. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas ce rapport-là, elles ne sont pas libérées, elles sont dans le carcan de la société américaine. Et là, c'est des filles libérées, c'est des filles qui couchent. Tu veux du plaisir, je vais te donner du plaisir, voilà, tout ça. Il y a un côté hédoniste. En fait, le film, pour moi, il est plus nihiliste parce qu'on est dans l'échec. On est dans l'Amérique post-Altamont, c'est post-Charles Manson, voilà. C'est la fin des idéaux hippies, là, on est en plein dedans. Hein. Donc, on est à la fois dans la fin des idéaux hippies, mais on est aussi, c'est-à-dire que des fins des idéaux liés, on va dire plus largement, des idéaux de gauche. Et puis, de l'autre côté, il y a les idéaux de droite qui sont là, qui un peu représentés par ces deux mecs, hein, qui sont des idéaux qui font froid dans le dos et qui valent pas, enfin qui sont pires même, voilà. Donc c'est assez, c'est une histoire, on voit une jeunesse sacrifiée d'un côté et de l'autre côté une majorité silencieuse qui finira à un moment par prendre le pouvoir via quelqu'un un populiste comme Trump, par exemple. C'est assez, le film est assez là-dessus, avant-gardiste dans son propos. Alors dans les bonus, on découvre ce que révèle Jean-Baptiste Auré, que normalement il devait y avoir une suite du film. Qui ne s'est pas concrétisé et qui devait mettre en scène Joe, hein, qu'on ne l'a pas assez dit, qui est brillamment interprété par Peter Boyle, parce que interpréter un prolo quand on n'est pas un prolo, souvent ça peut prêter, voilà, ça passe pas à l'écran. Peter Boyle est génial. Parce que en plus, moi j'ai toujours beaucoup aimé cet acteur, à chaque fois que j'en parle, je me dis qu'il est génial. Donc il est vraiment génial et dans tout ce qu'il a fait. Et là, il est hyper crédible. Mais donc ce Peter Boyle sortait de prison, c'était 10 ans après les événements du premier film, et il intégrait les Guardian Angels, des milices qui ont réellement existé et qui se sont mis en place à la fin des années 80 dans le but de combattre la violence dans le métro de New York. Et bon, là, on s'inscrivait plus dans un truc de vigilante, mais si c'était la même équipe, pourquoi pas ? Parce que j'aurais bien voulu voir un film avec un scénario de Norman Wexler sur un sujet comme ça. Parce qu'en fin de compte, un des films les plus intelligents sur le Vigilante qui existe, c'est le film, c'est le film de William Lustig qui s'appelle Vigilante. Hein, où il y a bien tout le mécanisme du Vigilante, où on voit bien que les types qui sont des Vigilantes, qui font partie de la milice, sont des psychos, quoi. Voilà, ce qu'on voit bien dans le film. Ce qui est un truc qui est largement bien montré, et on voit bien que c'est un mécanisme dangereux et que c'est dangereux pour l'équilibre d'une démocratie et d'une société. Et qu'on voit bien dans le film de Lustig, qui est une petite série B, mais qui a un scénario très très malin, je trouve. Voilà. Donc, bah écoutez, en tout cas, moi, ce Joe, c'est aussi l'Amérique. C'est la preuve que bah, la Canon, c'était autre chose que des nudistes, contrairement à ce que disent les brèves sur Internet. Et puis la Canon, bah, voilà, elle est rachetée par Yoram Globus et Menahem Golan, donc deux cousins israéliens, qui se font connaître dans leur pays par des films font des cartons internationaux, dont Opération Thunderbolt, par exemple, des films qui vont se retrouver, un qui est sélectionné aux Oscars, ça, puis ça va les amener petit à petit à arriver aux États-Unis. Et alors, eux, contrairement à Corman, ils sont célèbres aujourd'hui pour être entrés dans une... Voilà, on en a déjà longuement parlé dans l'émission, hein, au sujet d'autres sorties de films, pour avoir produit énormément de films de propagande, de films Chuck Norris, avec Chuck Norris, tout ça, des films qui sont des films de pure propagande, à la fois pour soutenir la politique de Reagan et puis de leurs alliés, de la politique menée par les dirigeants d'Israël. Donc c'est des films très bellicistes, très va-t-en-guerre et avec des raccourcis idéologiques assez effrayants parfois, mais avec le temps, ils ont acquis une patine certaines, un côté assez drôle quand on les regarde au second degré, mais néanmoins, il faut bien se dire que pour toute une partie des gens qui allaient voir ce film en salle, qui ont connu leur heure de gloire, il les prenait au premier degré. Alors, il y a eu aussi des productions un peu étranges, là, et dans les films sortis récemment, on va les prendre dans l'ordre, comment dire, chronologique, dans les films sortis récemment en Blu-ray DVD, il y a un film qui me fait dire quand même que Sean Connery, il a longtemps été fâché avec les costumiers, quoi, de Zardoz à ce film-là, quand même, qui s'appelle « L'épée du vaillant », hein, qui est un film de Stephen Wicks, qui est un réalisateur qu'on connaît pour avoir déjà adapté justement la légende de Sir Gawain avec Murray Head, la légende Sir Gawain et le Chevalier Vert, dans le film éponyme, hein, Gawain et le Chevalier Vert en 73. Et là, il reprend la même histoire. C'est produit par Menahem Golan, c'est une sorte de grande production internationale. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais les décors sont superbes. Et les... ouais, ils ont tourné à Pierrefonds, entre autres, dans l'Oise, hein, puisque notre émission est isarienne, du coup j'en profite pour le dire. Et il y a de très beaux décors naturels. On retrouve la belle Cyrielle Claire, qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui a pas mal tourné à une époque, dans les années 80, en France. Et là, donc, c'est une production internationale où elle tourne. Et puis, il y a Miles O'Keefe, qui fait donc Gauvin, hein, Gauvin qui est un peu un pro-chevalier, alors un peu bêta, en même temps Miles O'Keefe, pas l'acteur le plus expressif de l'histoire du cinéma, je pense que même Steven Seagal est plus expressif que lui, c'est dire, bon ça se discute, hein, Thomas, ouais. Mais en tout cas, Steven Seagal est mieux coiffé que lui, ça c'est sûr. Donc, on est à la cour du roi Arthur. Il y a Sean Connery habillé comme c'est pas possible. Jace et les conquérants de la lumière en monstre aux plantes. Voilà, il est habillé, je sais pas, il est trop bizarre, tout vert. Voilà.
Et en fluorescent.
Ouais, vert fluo, ouais, je sais pas pourquoi. Les mecs ont dû voir les essais photographiques assez génial, très lumineux dans le film de Borman, Excalibur. Alors, du coup, il photographie tout comme ça dans le film. C'est très clinquant, en fait, comme film. Et là, Arthur, ils sont en train de ripailler, et puis Arthur, le vieux roi Arthur, il est en train de dire « Oh là là, on est devenus des caricatures de nous-mêmes, on est des bons à rien, on est ridicules, je suis pas content. » Et là, tout à coup, il y a Sean Connery qui arrive, donc habillé en monstre aux plantes, et puis qui dit « Coupez-moi la tête, les gars, coupez-moi la tête !» Alors évidemment, tout le monde a peur, on sait pas pourquoi, parce qu'à la limite, tu lui coupes la tête, t'es tranquille, quoi. Après, tu le revois plus. Et puis il y a Gauvin, on sait pas pourquoi non plus, Sir Gauvin, qui dit « Bon, moi, je vais le faire, Miles O'Keefe. Bah, » Il lui coupe la tête, et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, les amis ? Bon, j'ai un ton un peu potache, mais ça le mérite, hein, quand même. Hein. Sean Connery ramasse sa tête, la remet dessus, sur ses épaules, puis tout va bien, voilà. Donc, eh ben, du coup, Gauvin et lui, ben, ils vont sympathiser, puis partir à la bagarre ensemble. Enfin, il cherche Gauvin de deviner une énigme, en fait, et en même temps, il va le former. Puis s'il ne devine pas l'énigme, eh ben, à la fin, il s'occupera de Gauvin, mais pas comme il faut. Alors, du coup, Gauvin se retrouve ici au rang de chevalier par le roi Arthur. Et puis, il part faire un voyage périlleux, donc en quête de la réponse à cette énigme du cavalier vert. Voilà, j'ai tout résumé. Maintenant, les copains, vous êtes en droit de me dire ce que vous pensez de ce film exceptionnel, quand même. Voilà.
La légende de Gauvin et du Chevalier Vert, moi, je l'ai découvert à travers The Green Knight de David Lowery. Et j'espérais, en découvrant cette version, connaître mieux l'histoire du Chevalier Vert et de Gauvin. Ça fut pas le cas. En fait, l'histoire du mythe, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que le chevalier vert se pointe à un dîner où plusieurs chevaliers sont rassemblés. Et en fait, ce qu'il dit normalement, c'est on va se taper chacun notre tour. Le premier chevalier va se désigner, va être assez courageux pour venir me couper la tête. Et si j'ai survie, je lui rendrai le coup. Donc, un chevalier arrive, Gauvin coupe la tête. Et au final, le chevalier vert n'est pas mort. Et avant de rendre le coup à Gauvin, il lui explique qu'il lui coupera la tête, qu'il lui rendra son coup, mais qu'il devra attendre un an le même jour pour qu'il lui rende son coup. Ce qui veut dire qu'on a un an à attendre. Et durant ce temps-là, habituellement, Gauvin soit résout une énigme, comme notre film actuel, même si l'énigme, il ne va pas vraiment chercher à la résoudre, les réponses vont lui tomber un peu dessus, ou il cherche dans l'autre version un moyen de survivre à ce coup qui est censé lui donner le chevalier vert. Alors, Sean Connery prouve, j'imagine, avec ce film que c'est un acteur queer, parce qu'en effet, après Zardoz et cette tenue moulante, et ici ce costume vert qui laisse quand même son torse poilu ressortir, tenue vert épailleté, hein, il a plein de petites paillettes partout. Déjà, le film donnait un peu son ton avec la coiffure de Gauvin qui est très voluptueuse. Et en soi, Sean Connery, à chaque fois qu'il arrive, il vole l'écran déjà par sa tenue et ensuite par sa présence. En fait, le truc qui est très bizarre dans la quête, c'est un peu que tout tombe sur Gauvin comme ça. C'est un film qui utilise pas mal d'éléments fantastiques, mais quand je regarde, je me demande si vraiment il sait ce qu'il fait. On a une licorne, on a une sorcière, on a une ville magique, on a également des nains magiciens ou des elfes magiciens, je sais pas trop. Et c'est un film qui essaye de caser pas mal de choses, mais encore une fois, je sais pas s'il sait ce qu'il fait, et c'est vraiment bizarre à regarder.
Je te rejoins complètement, Damien. Moi, je me suis demandé si c'était une parodie, en fait. Je me suis demandé si c'est fait pour rire ou alors c'est involontairement drôle. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça, sur ce film très étrange.
Mais je reste sur le fait que, bizarrement, le Green Knight de David Lowery est beaucoup plus compréhensible.
Après, le film a une patine sympathique. Enfin, le film est rigolo, voilà, c'est sympathique. Hein, voilà, mais ne vous attendez pas à voir le grand film médiéval sur la légende arthurienne. Non, là, vous allez, revoyez Bourman et Excalibur. D'ailleurs, je tiens à dire que Zardoz de Bourman, c'est un super film. Hein, même si le costume de Sean Connery est particulier, le film est excellent. Et puis, pour vous dire à quel point Menahem Golan et son cousin avaient du flair. À l'époque, ils ont refusé Mark Hamill dans le rôle principal, lui préférant Miles O'Keefe. Ah, je pense que c'est une petite erreur. Voilà, je dis ça comme ça, mais petite erreur. Voilà.
Quand même, il a fini par faire SAS après.
On va passer à une autre production de la Canon, une autre production qui est, ma foi, qui est plus sérieuse en vérité. Hein. Enfin, il y en a deux qui sont sortis en 87 là, dans les films qu'on doit chroniquer, qui est plus sérieuse, qui est plus étonnante, parce qu'en fait, la Canon avait aussi des velléités autorisantes. Hein. Godard est venu travailler pour la Canon. Bon, ça s'est pas bien passé d'ailleurs, hein, mais bon, en tout cas, il est venu travailler pour la Canon. Barbet Schroeder, dont on va parler là, est venu aussi travailler pour la Canon pour quand même un projet assez particulier. C'est un projet autobiographique. Le premier scénario écrit pour le cinéma en tant que premier scénario original de Charles Bukowski qui raconte sa vie, en fait. Hein, voilà. Enfin, tout ou partie de sa vie. Voilà. Ce Barfly, alors, il met en scène donc Mickey Rourke. Alors, Barbet Schroeder, on le connaît bien, on a déjà longuement parlé dans l'émission, hein, mais ce film est un peu à part dans sa filmo, quoi. Donc, et il met en scène donc ce Mickey Rourke dans le rôle de Henry Chinaski. Henry Chinaski, qui est en fait l'alter ego, hein, de ce dingue absolu de Bukowski. Et il rencontre Wanda Wilcox, qui est interprétée par Faye Dunaway. Alors, ce qui est, en plus, Faye Dunaway, à l'époque, c'était une actrice qui avait beaucoup de mal à travailler, qui ne trouvait pas beaucoup de rôles. Donc, le rôle lui sied à merveille, parce que là, elle fait une femme paumée, un peu alcoolique, voilà.
Une barfly.
Une barfly, voilà, exactement. Et donc, ils se rencontrent tous les deux dans un bar. Et on passe tout le film à suivre un peu toutes les errances comme ça dans le Los Angeles, beaucoup nocturne évidemment, au milieu d'une faune interlope comme ça qui vit dans le bar. Et puis de temps en temps, Chinaski, il cherche la bagarre toujours au barman, puis à la fin ils se bastonnent dans la rue, ils font ça régulièrement, ils se foutent sur la gueule comme ça. Et à un moment, Chinaski, il y a un truc qu'il écrit qui va intéresser un agent littéraire, et ça va, une agent d'ailleurs, hein, et ça va changer un peu sa vie, quoi, voilà. Mais lui, il reste Chinaski, c'est ça le truc en fait, c'est ça un peu le message du film. Film assez étonnant, hein, parce que ça reste vraiment un vrai film d'auteur, film très particulier. Singulier dans la carrière de Schroeder, parce que Schroeder, ce qu'il a fait aux États-Unis est vachement bien, mais toujours un peu plus, c'était un peu du cinéma de studio ce qu'il faisait Schroeder aux États-Unis, même s'il y apportait toujours sa touche personnelle. Et là, il est dans quelque chose de différent. Et moi, je trouve que ce film, il est évidemment, c'est un film qui s'intéresse aux marginaux. On ne vit, c'est que le monde des marginaux, et c'est une vision quand même assez. Bon, assez noir, hein, mais où on a certaines formes d'humour, on est attaché à ces personnages. Et je trouve que Schroeder, il arrive à garder ça, à rester sur ce fil très ténu, parce que c'est pas un scénario si évident que ça, illustré en vérité, hein, et il arrive à rester sur ce fil très ténu. On s'ennuie pas une seconde et on suit ces déglingués de la vie au milieu de cette faune, avec même des moments, c'est presque très westernien d'ailleurs, ces bagarres de bar et tout ça, où on provoque le barman, va-t-on casser la vitre ou pas d'ailleurs, hein, avant. Mais on est là-dedans et le film fonctionne très bien, et à la fin il laisse un, à la fois, on a l'impression d'avoir passé un moment avec ces gens-là, puis que c'était une parenthèse un peu comme ça dans notre vie, d'avoir connu un peu ces gens-là. Et c'est un film qui respire la sincérité. Voilà, je trouve que là, on sent que Bukowski il se raconte un peu dans ce film. Et film étonnant et qui reste longtemps après sa réalisation, là, toujours un film assez passionnant sur les marginaux américains.
Je suis très content de pouvoir enfin redécouvrir Barfly en Blu-ray, parce que c'était pas évident, hein. Je sais qu'un autre éditeur cherchait à l'éditer, qu'apparemment il y avait des problèmes de droit sur ce film, et donc finalement c'est ESC qui l'édite. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce film qui effectivement est à part dans la carrière de Barbet Schroeder. Ceux qui ne connaissent pas Charles Bukowski, il a une œuvre assez particulière, hein. C'est quand même un mec qui, ses écrits, c'est des nouvelles ou des courts romans, hein, et où il parle d'alcool. En fait, il parle de lui, il se met en scène, hein, généralement sous le un alter ego qu'il appelle Henri ou Hank. Là, comme dans le film, hein, où il parle beaucoup d'alcool, d'errance. C'est un poète qui boit, puis qui baise. Il y a beaucoup de sexe dans ses trucs. Parfois, il y a un petit peu de fantastique aussi. Hein. Dans Les Contes de la Foule Ordinaire, il y a quelques nouvelles fantastiques. Ou même, il a écrit un roman noir teinté de fantastique qui s'appelle Pulp. Et donc, on retrouve tout cet univers-là, le fantastique en moins, là, vu qu'on est vraiment dans le réalisme. Il décrit vraiment un microcosme de marginaux, mais. Alors, tu dis que la rencontre avec cet agent qui est incarné par Alice Craig, je ne sais pas si on dit Craig ou Krieg, Krieg, Alice Krieg, Non, ça change pas sa vie, parce qu'en fait, lui, il aime sa vie, vivre dans une chambre d'hôtel complètement décrépite, boire de l'alcool.
Il devient riche, c'est ça que je te dis en fait.
Mais ah oui, mais non.
On sait qu'il va claquer tout son pognon dans la picole, mais il devient riche quand même.
Ouais, voilà. Enfin, il devient riche.
La femme claque tout dans
de façon éphémère, parce que l'argent ne l'intéresse pas en fait. Parce qu'effectivement, il claque tout dans la picole, il paye des coûts à tout le monde. L'argent ne l'intéresse pas. Ce qu'il aime, c'est cette vie qu'il mène avec, après avoir rencontré ce personnage connu par Faye Dunaway, il s'installe avec elle, puis il s'engueule, il se tape dessus, mais il se tape dessus jusqu'à saigner, quoi, je veux dire. Mais il s'aime, en fait. C'est vraiment un mode de vie assez particulier. Et je trouve que Barbet Schroeder, il porte aussi un regard assez tendre sur ces personnages, sur ces paumés de la vie, qui en plus se font pas forcément de cadeaux. Hein. Et tu parles de bagarre. Alors le film commence avec une caméra qui rentre dans le bar, et puis on va dans l'arrière du bar, on voit un barman tout seul qui est en train de lire le journal, puis on entend des bruits en off. Et en fait, c'est Hank qui est en train de se battre avec le barman, avec qui il a un contentieux. Et régulièrement, il le provoque, parce que c'est un provocateur. Chambikovski était un provocateur. Hein. Il le provoque régulièrement. Et le film se termine encore par une bagarre avec la caméra fait le chemin inverse en partant de la bagarre et pour retourner vers la devanture du bar. Alors pour moi, c'est un grand film donc, que je recommande vivement.
Alors la boucle se boucle avec ce plan de bar. Alors, Barfly, donc, qui est sorti donc chez ESC. Comme Joe, c'est aussi l'Amérique, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, un autre film de la Canon qui est sorti chez ESC, qui s'appelle, mon cher Damien, Le Ninja Blanc. C'est un film de Sam Firstenberg avec, évidemment, Michael Dudikoff et Steve James. Écoutez Culture Prohibée, spéciale production indé US.
Ninja Blanc, c'est un peu un titre trompeur, parce que son véritable titre, c'est American Ninja 2, The Confrontation. On avait déjà parlé du premier, qui avait été une découverte, pour ma part. Jérôme m'avait promis que le 2 était mieux. C'est le cas, mais c'est assez particulier. Alors, on y retrouve. Alors, c'est toujours réalisé et écrit par la même personne, c'est-à-dire Sam Firstenberg. On a toujours Michael Dudikoff dans le rôle principal du sergent John Stone, qui est un Apollo blanc, maître du kung-fu et du karaté. Toujours accompagné de Steve James, qui joue le sergent Curtis Jackson, qui est. La personne, l'acteur noir qui le suit un peu partout en rôle secondaire, qui est là pour montrer qu'il est extrêmement fort, qu'il fait pas du kung-fu mais qu'il a des muscles. Et dans la précédente histoire, on avait des ninjas et c'était logique. Là, on se retrouve sur l'île de Saint-Thomas dans les Caraïbes, parce qu'en fait, il y a des Marines qui ont disparu et il faut les remplacer parce qu'ils sont censés protéger quelqu'un important. Et donc, on va faire appel à nos deux soldats pour s'occuper de cette mission. Et arriver sur l'île, ils vont se rendre compte qu'il y a des ninjas qui sont présents sur l'île. J'aime beaucoup le discours du grand méchant à la fin qui explique tout le plan. En fait, l'objectif des méchants, c'est de kidnapper des soldats pour les transformer génétiquement et mentalement en guerriers ninjas pour avoir des super ninjas, parce qu'eux, ils sont sur un empire de drogue. Leur objectif, c'est d'avoir des super ninjas. Voilà. Alors, faut pas aller chercher bien loin. C'est un film qui a beaucoup de combats en son sein. Ce qui est génial, en fait, vraiment dans le film, c'est de voir des ninjas sur la plage faire des mouvements de ninja, mais vraiment sur la plage avec l'océan et le sable autour d'eux. C'est très dépaysant et c'est très agréable à regarder en soi.
Si vous aimez les productions canon assez, assez classiques, un peu bisounettes comme ça, vous allez vous marrer, quoi. Il y a un moment quand même, il y a deux moments dans le film moi, que je retiens. Il y a un moment, il y a un ninja, il y a un super ninja en fait. Il se fait, je crois, écraser je ne sais pas combien de fois par la bagnole. Il remonte toujours dessus pour péter la gueule des gentils. Il est strictement increvable. Hein. Il est increvable. À ce ninja-là, j'ai gros respect. Et puis, il y a ce personnage de gamin. Il y a ce personnage de gamin dont tu n'as pas parlé, je suis étonné. Le fameux Toto. Alors moi, je trouve que c'est très limite, ce personnage de Toto, parce qu'il fait tout pour 10 balles. Donc, vous l'interprétez comme vous voulez. Dès que vous voulez un truc sur l'île, il faut passer par Toto. C'est 10 balles. Bon, bah, c'est 10 balles, Toto, d'accord, ok. Bravo la canon. Bravo Menahem Golan, hein, Yoram Globus. Bravo les gars.
Oh là, ça reste le personnage le plus efficace du film.
Ah oui, il est pas cher et il est bon. Hein. Ça, c'est un bon artisan, je vous le conseille. Toto, c'est du costaud, Toto. Voilà. Et je précise quand même qu'il s'appelle, pour les gens qui ont sorti le film en France, il s'appelle le ninja blanc parce que Dudikoff est blanc et non pas parce qu'il est habillé en blanc. Voilà. Donc c'est un truc, bon, faut se demander ce qu'il y avait dans la tête des mecs qui faisaient les titres des films. Voilà. Oh, mais il est blanc, ninja blanc. Donc voilà. Donc, alors que American Ninja 2, quand même, ça envoie aussi du lourd, quoi. Je veux dire,
alors
ça a
que
de la gueule.
Techniquement, tous les super ninjas sont blancs.
Ben en plus. Et voilà, parce que lui, c'est un super ninja en plus. Voilà. Bon, on va terminer ce tour d'horizon. On n'a plus beaucoup de temps par un film. Alors, qui va être la suite de la carrière de Golan, en fait, parce qu'à un moment, la canon va se casser la gueule avec la fin des idéaux républicains. Parce que, quand même, Golan Globus, c'est quand même l'antithèse de Corman, hein, c'est-à-dire, en termes politiques, hein, je parle. Hein, voilà. Tout ce qui est quand toute comment dire Reagan se casse un peu la gueule, quand toute cette idéologie là commence un peu à être remise en cause, et ben ces films de propagande là ils marchent beaucoup moins bien parce qu'ils font beaucoup de films de propagande, sachant que le Ninja Blanc est beaucoup moins un film de propagande que d'autres, hein, voilà. Mais il y en a eu des sévères dont on a déjà parlé dans l'émission quand même, et là il va, lui, monter à une 21st Century Film qui va être une autre... Après, il va monter une autre boîte qui va produire des films aussi mémorables qu'un film sur la Lambada, je me rappelle. Je crois de Graydon Clark. Hein, voilà. Thomas étant spécialiste de Graydon Clark, je me tourne vers lui. Thomas ayant rédigé un dossier très complet sur Graydon Clark pour Vidéotopsie il y a quelques années.
Un film écolo.
Oui, mais bien sûr. Graydon Clark, cinéaste tellement écolo que dans The Intruder, il tourne les scènes de naufrage du bateau dans sa baignoire. Donc, c'est un écolo, quoi. Voilà, il gaspille pas, notre ami Graydon Clark. Alors, là, c'est un autre film d'un autre réalisateur, quand même, qui a eu une toute petite heure de gloire, hein, dans la série B, puisqu'il a fait un sympathique, moi je l'aime bien, un sympathique Steven Seagal, désigné pour mourir, je crois, hein, il me semble que c'est Dwight Little qui fait ça, parce que là on parle de Dwight Little, et puis il a fait un Halloween 4, hein, à l'époque il vient de faire Halloween 4 d'ailleurs, hein, et on est un an après ce Halloween 4, qui divise les fans, mais bon, moi je lui trouve quand même des qualités à ce Halloween 4, et puis il va faire ce Fantôme de l'Opéra, cette version du Fantôme de l'Opéra, cette nouvelle adaptation de Gaston Leroux, avec Robert Englund qui reprend son rôle de Freddy Krueger en gros, hein, parce que là c'est lui qui fait le fantôme, sauf qu'il est brûlé en fait, donc comme Freddy Krueger, et qui se recompose sa peau dans des scènes assez dégueu, hein, quand même, hein, c'est assez dégueu, et qui tombe sous le charme de Jill Schoelen, qui est très jolie, c'est vrai, très jolie, très talentueuse, et qui est celle qui va interpréter le rôle principal de l'opéra. Dwight Little nous emballe tout ça, on est en 89, et bah, cette Jill Schoelen, elle va passer en fait elle retrouve une partition perdue avec une chanson qui est très chouette d'ailleurs, composée par le compositeur de la bande originale du film, et elle retrouve cette chanson, elle va la chanter, elle est prise lors de cette de ce casting vocal, sauf que lors de cette audition en fait elle se prend un projecteur sur qui tombe pas loin d'elle et tout, et lorsqu'elle se réveille elle est à l'époque de la première représentation du Fantôme de l'Opéra, elle est revenue à la fin du 19e, et donc ce qui va se passer du coup c'est que on va avoir affaire à un Fantôme de l'Opéra qui ressemble un peu à Freddy Krueger, mais où au lieu de nous ennuyer avec les morceaux chantés, on nous balance des meurtres hyper gore. Et j'avais un souvenir, mon cher Damien, moi, d'un film assez calamiteux. Eh bien, en fait, là, ce fantôme de l'opéra, quand je l'ai revu, qui est sorti chez BQHL, je l'ai largement revu à la hausse, parce qu'en fait, c'est une série B fort sympathique, et plutôt bien mise en scène, avec une belle esthétique. La copie est superbe, hein, de BQHL, là, voilà. Et qui nous donne à voir, en fait, une version du fantôme de l'opéra, ma foi, plutôt bien ficelée.
C'est particulier de voir un fantôme de l'opéra où, finalement, il y a très peu de musique. Et surtout, bah, vu que c'est des chants qui sont normalement des chants lyriques, ils sont censés durer quand même assez longtemps, donc 5-7 minutes, pour parler de ce qu'expriment les personnages et de ce qui vient se passer. Et ici, le choix que fait... Dwight H. Little, c'est d'en fait virer énormément de musique pour en garder que deux ou trois et de remplacer tous les moments où on doit avoir des scènes musicales par des meurtres. Et je trouve que c'est assez efficace parce qu'une relecture du fantôme de l'opéra en prenant un côté plus horrifique fonctionne beaucoup. Déjà parce qu'avec Robert Englund, on a en effet ce petit côté Freddy qui est très appréciable. Il porte des prothèses. Moi, je trouve que les prothèses lui donnent un petit côté Matt Smith, qui est un acteur que j'aime beaucoup, peut-être parce que ça gonfle son visage et que ça rend un peu carré. Mais comme tu as dit, Jérôme, il est brûlé. En fait, il y a la peau de son visage qui pourrit un peu. Donc, il est obligé à chaque fois de la recousse, qui rajoute un petit côté Jeeper Creeper, qui est lié indirectement à l'intrigue du film, qui remet en avant ce côté « j'ai passé un pacte avec un démon, je vis éternellement tant que mon œuvre vit, mais son corps au final pourrit un peu avec le temps, il disparaît au fur et à mesure ». J'aime bien cette vision assez classique que l'homme disparaît mais que son œuvre reste, et justement le seul moyen de vaincre ce monstre, même s'il est un amoureux de la musique, mais le seul moyen de vaincre ce monstre, c'est finalement de détruire l'œuvre. Pas seulement de détruire l'homme, mais de détruire finalement ce qui est censé lui survivre. C'est un film qui, avec ses côtés horrifiques, je trouve qu'il fonctionne énormément. Il y a plein de plans qui sont très cool. Il y a notamment le moment où il se fait agresser dans la rue, qui rajoute un petit côté Jacques l'Éventreur que j'aime beaucoup, avec le meurtre dans la rue. Alors, c'est pas un grand film, mais je trouve que c'est vraiment une adaptation très sympathique. Et en fait, avec une œuvre qui a été autant adaptée, c'est très cool de le voir s'axer sur un genre très particulier. Et ici, je trouve que l'horreur fonctionne parfaitement.
Et donc, on vous recommande ce fantôme de l'opéra de Dwight Little, sorti chez BQHL. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.